ensoleillée et passionnante du flamenco. Des origines à la création contemporaine, en passant par la musique qui y est associée, je vous donne rendez-vous ce vendredi, midi.
Au cœur du ballet, une émission France Musique à retrouver sur le site et l'application Radio France.
Elle est chanteuse, animatrice, mannequin, elle a aussi écrit des romans. C'est comme comédienne qu'Elena Noguera est de retour, non pas sur une scène, mais deux, dans Tango y Tango au Théâtre Marigny à Paris. Elle est un fantôme, une femme disparue sous la dictature militaire en Argentine. Et puis à la Scala Paris, elle incarne la peintre mexicaine Frida Kahlo, deux rôles où elle chante aussi, car voilà 25 ans qu'elle enregistre aussi des disques. Elle sera notre invitée, Elena Noguera, à 8h30. Et puis lui est moins connu que son alter ego musical Duke Ellington, et pourtant il a composé de nombreux standards de jazz. C'est Billy Strayhorn qui est à l'honneur ce matin dans Maxi Classique. Rendez-vous à 8h20. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est Maurice Pialat, la voix mystère. Non, c'est pas Maurice Pialat. Il est 8h01. Et les infos avec Olivier Doré. Bonjour Olivier.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous. C'est un fait sans précédent dans l'histoire américaine pour un ancien président. Une condamnation pénale vient donc d'être prononcée par un jury contre Donald Trump. Sa peine ne sera connue que le 11 juillet prochain. Mais le milliardaire républicain est d'ores et déjà reconnu coupable. Décision unanime. Les 34 chefs d'accusation présentés par le procureur ont tous été validés par les 12 jurés qui ont participé ces dernières semaines au procès new-yorkais de l'homme d'affaires. Donald Trump est donc sanctionné pour avoir dissimulé via des frais de campagne une enveloppe de 130 000 dollars donnée à une star du porno pour qu'elle ne révèle pas leur relation avant la présidentielle de 2016. L'ancien locataire de la Maison-Blanche qui rêve d'occuper une nouvelle fois le bureau ovale doit tenir une conférence de presse dans la journée. À la sortie du tribunal, il a une nouvelle fois dénoncé un procès truqué et s'est dit innocent. Ses avocats devraient faire appel de ce jugement qui de toute façon ne l'empêchera pas de faire campagne. Le centre et le sud de la bande de Gaza sont actuellement pilonnés par l'armée israélienne. On parle de frappes intenses près de Rafah et de Nusayrat. L'État hébreu poursuit donc son offensive malgré les condamnations internationales de ces derniers jours. Hier soir, Benjamin Netanyahou a une fois de plus justifié les opérations militaires et qualifié de calomnies antisémites les accusations contre Israël de cibler des civils ou de les affamer. La diffusion de cette interview sur LCI a donné lieu d'ailleurs à une manifestation près du siège du groupe TF1. Au moins 2500 personnes ont répondu à l'appel d'associations pro-palestiniennes et de la France insoumise. Ce matin, le journal L'Humanité publie, lui, une lettre signée par 500 personnalités. Elle demande au président français de reconnaître maintenant l'État de Palestine. Sachez à ce propos que la Slovénie votera, elle, la semaine prochaine en faveur d'une telle reconnaissance. Cette semaine, l'Irlande, la Norvège et l'Espagne ont franchi le pas en officialisant cet acte symbolique. Un dérapage de 6 milliards d'euros. Le déficit de la sécurité sociale sera finalement plus important que prévu cette année. Les dépenses ont augmenté plus vite que les recettes, indique la commission des comptes de la Sécu. La branche retraite est en grande partie responsable de ce résultat à cause d'une revalorisation des pensions en janvier dernier. La situation des finances publiques, on va évidemment en reparler aujourd'hui avec la note de Standard & Poor's. La célèbre agence de notation américaine doit dire si elle maintient ou non le double A avec perspective négative attribuée l'année dernière à la France. Certains experts parient sur une dégradation, estimant que les efforts engagés ne sont pas suffisants pour alléger la dette souveraine de notre pays. 43 000 policiers, gendarmes et militaires seront mobilisés la semaine prochaine pour protéger les cérémonies du débarquement et de la bataille de Normandie. Le 80e anniversaire du 6 juin aura lieu en présence de Joe Biden, de son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky ou encore du roi Charles III. Aucun représentant russe, en revanche, n'assistera aux commémorations. En matière de sécurité, les festivités du débarquement, sont présentées par le ministère de l'Intérieur comme un test grandeur nature avant les Jeux Olympiques de Paris cet été. Enfin, sachez que le spectacle d'Édouard Baird est annulé à Paris. Plusieurs représentations étaient prévues sur la scène du Théâtre Antoine, dans le 10e arrondissement de la capitale. La direction du théâtre ne fait aucun commentaire. Le comédien est accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par 6 femmes qui ont récemment témoigné anonymement contre lui, notamment sur le site de Mediapart. À suivre, Jean-Baptiste Urbain, le reportage de Sophia Anastasio qui revient sur un concert pour un hommage ce soir au peintre Pierre Soulages.
Bon week-end, Olivier Denry. Vous serez avec Gabriel d'Olivera Guyon la semaine prochaine.
Bon week-end à vous et bonnes vacances.
Merci.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
10 ans qu'il a ouvert ses portes, le musée Soulages célèbre ce week-end cet anniversaire. Et à cette occasion, l'Orchestre National du Capitole de Toulouse va créer ce soir, à côté du musée, une œuvre hommage, une œuvre musicale au peintre, inventeur des Outres Noires, qui est mort centenaire il y a 2 ans. Cette œuvre, elle est signée William Blanc, compositeur suisse. Elle s'appelle Reflecting Black et elle entend exprimer en musique, justement, ce que provoquent les toiles noires de Soulages. C'est un reportage de Sophie Anastasio.
Ce matin, les musiciens et musiciennes de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse répètent pour la première fois la pièce pour piano et orchestre composée par William Blanc en hommage au maître de l'Outre Noir. Une idée qui s'est imposée à lui au cours de l'écriture d'un concerto, raconte-t-il.
Je cherchais à traduire une couleur très sombre, très noire. Et c'est en travaillant, en écrivant des choses, que je me suis souvenu d'un choc artistique que j'avais vécu en 99 à Berne, dans une immense rétrospective au Kunstmuseum de Berne, de l'œuvre de Pierre Soulages. Et j'ai commencé à me remémorer les impressions que j'avais ressenties dans ces peintures gigantesques qui reflètent la lumière à partir de la couleur noire, à partir du sombre. Et ça a déclenché une nouvelle idée, en fait, pour le concerto. Voilà.
Pendant le processus de composition, William Blanc n'a pas souhaité regarder les œuvres de Soulages. Je voulais, dit-il, retranscrire mon émotion face à ces toiles, une émotion que ressent Floriane Tardy, clarinette solo de l'Orchestre du Capitole.
C'est de la musique qui ne laisse pas indifférente et il y a un matériel très puissant, très fort. Voilà, on a tous des timbres différents, des modes d'attaque différents. On peut imaginer tantôt le pinceau qui effleure, tantôt le pinceau qui gratte, le contact avec la toile. Nous, c'est le contact avec le mode de jeu, le mode d'attaque.
Tu veux qu'elle s'articule comme ça ? Ouais. Face aux musiciens, se tient le chef Léo Varinsky, ravi de diriger cette œuvre.
J'ai l'impression de temps en temps de me sentir, très modestement, mais comme le peintre face à la palette. Et à un moment, je disais d'ailleurs au cuivre, vous voyez, là, c'est comme un grand trait, un grand geste. On sent de temps en temps dans la musique de Pierre Soulages, la musique, un lapsus, dans la peinture de Pierre Soulages, des mouvements très énergiques. Et de temps en temps, j'ai l'impression de ressentir ça.
L'œuvre de Soulages serait-elle musicale par essence ?
Absolument pas. Je pense pas qu'on pense à, on pense pas à du rythme, on pense juste à la, de la matière, on pense à la lumière, naturellement, mais on pense pas forcément tout de suite à la musique.
Vous écoutez beaucoup de musique, Pierre Soulages ?
J'aimerais en écouter davantage. J'en écoute trop peu.
Vous n'en écoutez pas quand vous travaillez, quand vous peignez ?
Surtout pas.
Reflecting Black a été créé en 2009 par le pianiste David Lively, qui sera présent aux côtés de l'orchestre. Et Pierre Soulages l'a bien écouté, raconte William Blanc.
Je n'ai pas voulu le rencontrer avant de l'écrire. Par contre, quand l'œuvre a été créée, je suis allé le voir. Je lui ai apporté un disque. Et on a beaucoup parlé sur son rapport à la musique. Et ensuite, il m'a un jour téléphoné spontanément en me disant qu'il avait écouté l'œuvre plusieurs fois et qu'il était sensible et touché par le fait que j'ai traduit avec des sons ce que lui essayait de faire en peinture.
Programme également de cette soirée le triptyque botticellien de Respighi, une suite orchestrale elle aussi composée pour rendre compte de l'admiration du compositeur face au peintre de la Renaissance cette fois.
Sophie Anastasio pour France Musique. Reflection Black, c'est ce soir à 20h30 au Théâtre de la Baleine à Aulnay-le-Château en Aveyron, juste à côté du musée Soulages de Rodez.
Il cieco Dio per me piano, il cieco Dio per me piano, per me piano.
Viens à court vol dans mes bras, c'est la scène finale de L'Antiope, dernier opéra de Carlo Pallavicino, composé en 1689. Et cette voix, c'était celle de Léa Desandré avec l'ensemble Jupiter de Thomas Dunford, petite cloche comprise. Quasiment à la même époque, Marc-Antoine Charpentier écrit lui sa Médée, sa grande tragédie lyrique. La mezzo vient de triompher dans ce rôle au Palais Garnier sous la direction de William Christie. Et c'est l'opéra que Judith Chen nous propose demain soir à 20h dans Samedi à l'opéra, ne pas manquer sur France Musique. Notez que Léa Desandré et Jupiter seront aussi en concert mardi prochain à la Maison de la Radio et de la Musique, un concert anglais, Purcell d'Hollande, qui sera aussi en direct sur nos ondes. Il est 8h12.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
C'est une drôle d'histoire que nous racontent ce matin nos confrères de l'agence de France Info, celle du chanteur Hervé, révélation masculine aux Victoires de la Musique. C'était en 2021. Son album Adrénaline, c'est son titre, sort aujourd'hui sur les plateformes, mais la version physique CD devait aussi sortir aujourd'hui. Elle est retardée. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Hervé, le chanteur, explique avoir voulu écouter son troisième album dans sa voiture. À la veille de sa sortie, il glisse alors le CD dans le lecteur et là, surprise, une autre chanson. Luis Fonsi, un autre chanteur, pas sur une seule plage, sur toutes les plages. Le chanteur breton explique que ce problème concerne tous les CD, aucun morceau à lui n'est gravé. Pas une blague, dit-il, mi-amusé, mi-incrédule, une erreur à l'usine qui devrait être réglée dans le courant de la semaine prochaine. Voilà, pas d'erreur, c'est bien Hervé, le compositeur d'opérette que voici, Mamselle Nitouche. We'll be right back. L'ouverture de Mamselle Nitouche, un peu d'opérette, signée Hervé, le compositeur, avec l'orchestre de l'Opéra de Lyon, dirigé par Jean-Pierre Heck. Merci d'écouter France Musique, c'est Musique Matin. Il est 8h18. Même avec une ombre d'infidélité, je ne trahirai mon âme. C'est ce que chante Romilda dans cet acte 1 de Xerxès de Handel. Et Romilda, c'était Sophie Junker avec l'orchestre, le concert de l'Hôtel Dieu dirigé par Franck Emmanuel Comte, ensemble baroque lyonnais, qui, avec la soprano franco-belge, font partie des invités du Festival de musique baroque et sacrée de Froville. C'est la 27e édition, ça commence aujourd'hui, ça dure tout le mois de juin, un tout petit village, 147 habitants précisément, avec un ancien prieuré de 9 siècles. On est au cœur de la Lorraine, entre Nancy et Épinal. 12 concerts en un mois, et aux manettes désormais Emiliano González Toro. Ce concert de l'Hôtel Dieu, ce sera le 7 juin. Il est 8h21, c'est l'heure de Maxi Classique. Et ça n'a pas changé, c'est avec Max Dozol. Bonjour Max.
Bonjour Jean-Baptiste, bonjour à toutes et à tous.
Il y a 57 ans, jour pour jour, le 31 mai 1967, disparaissait prématurément le pianiste américain Billy Strayhorn.
Un musicien exquis, mais aussi un compositeur de nombreux standards de jazz et que l'on considère notamment comme étant l'alter ego musical de Duke Ellington.
Billy Strayhorn is our encore.
Il faut le voir monter sur scène à l'appel de Duke Ellington, marcher timidement jusqu'à son piano et commencer le plus tranquillement du monde son solo Just in Time. Derrière ces grandes lunettes qu'il ne quitte jamais, le premier conseiller du Duke sourit avec un air malicieux de jeune premier qu'il gardera jusqu'à sa 52e et dernière année. De ce sourire et de ce jeu pianistique formé à la technique classique se dégage une véritable force tranquille, une assurance, un calme qui nous rappelle que Billy Strayhorn connaissait bien cet air intitulé « Take the A-Train ». En effet, ce n'est pas Duke Ellington, mais bel et bien lui, Billy Strayhorn, qui est à l'origine de ce standard de jazz, écrit en hommage à la ligne A du métro new-yorkais en 1939 et qui ouvrait dès lors chaque show du Duke Ellington Orchestra. Avec Duke Ellington, qu'il rejoint cette année-là en 1939 et avec lequel il collaborera en tant que pianiste, compositeur et arrangeur jusqu'à la fin de sa vie en 1967, Billy Strayhorn co-compose le standard Satin Doll. Il signe aussi des bijoux de jazz modal et impressionniste qui se souviennent des harmonies d'un Debussy ou d'un Ravel. Je pense par exemple à la mélodie vaporeuse, brumeuse de Chelsea Bridge, ou encore à celle tout aussi incroyable de Lush Life, ponctuée de marches harmoniques, d'accords qui glissent, transposés de manière peu académique, mais très debussiste. Une magnifique version de ce Lush Life enregistrée en mai 1961 à Paris où l'on retrouve Billy Strayhorn au piano accompagné par les voix de sirène de l'ensemble Paris Blue Note. Un bel arrangement qui en appelle un autre, cette version pas la plus connue du standard Daydream enregistré par le saxophoniste Johnny Hodges, un compagnon de route de Billy Strayhorn qui avait lui aussi une certaine idée du beau son. Johnny Hodges, que l'on retrouve d'ailleurs parmi les soufflants épiques du Duke Ellington Orchestra en 1960, dans cet arrangement signé là encore Billy Strayhorn de la danse de la fée dragée de Tchaïkovski. Clé de voûte de la suite Casse-Noisette, revue et corrigée par Billy Strayhorn, un pianiste discret qui, comme certains arbres, s'épanouissait à l'ombre des plus grands. Duke Ellington, bien sûr, mais aussi Tchaïkovski.
À l'ombre d'Ellington, les chefs-d'œuvre de Billy Strayhorn, chronique maxi classique, en ce jour anniversaire, à podcaster, à réécouter sur le site et l'application Radio France. Encore un peu de jazz avec Toba Enco, le pianiste français est en tournée avec les Concerts de Poche et leur orchestre dirigé par David Walter. Il va donner le concerto en sol de Ravel ce soir à Moissy-Cramayel, c'est en Seine-et-Marne, dimanche à Belmont-sur-Rance dans l'Aveyron, ou encore le 15 juin à Redon, le concerto en sol de Ravel avec Toba Enco et le Concert de Poche, c'est l'orchestre. Toba Enco ici en solo, ça s'appelle Turning 30. Thank you. Turning 30, extrait d'un album enregistré il y a 5 ans par Thomas & Co. quand il passait le cap de la trentaine. Il en a aujourd'hui 35 et donc il se lance dans une tournée en France avec l'orchestre des concerts de poche. Nous on s'est connus, on n'avait pas 30 ans, Émilie.
Non, je ne crois pas.
Mais non,
bon, absolument, c'était il y a un moment.
Mais vous n'avez pas changé, bonjour.
Bonjour Jean-Baptiste.
Quel est le programme d'Empice dans les
Est-ce lumières que vous aimez les sonates du Rosaire de Bieber?
J'adore, je les écoute tous les jours.
Ah ben non, mais parce que vous savez que Rodolphe ne les aime pas. Et moi, ça me fait beaucoup de peine.
Vous n'arrivez pas à le convaincre.
Mais justement, ça va être ma mission de ce matin.
Nouvelle tentative.
Nouvelle tentative de le convaincre avec une version qui nous vient des États-Unis, avec l'Apollo's Fire, qui est un ensemble qui est mené par Jeannette Sorel. Et c'est Alan Chu, qui est le directeur artistique aussi de cet ensemble, qui les défend en violon. 6 violons différents, puisque vous savez que les violons ne sont pas accordés pareil pour toutes les sonates. Donc il a choisi de prendre 6 instruments.
Vous avez l'air d'être une spécialiste des sonates.
Ah, mais depuis que je les écoute et depuis que Rodolphe ne les aime pas, je les connais encore mieux.
Non, écoutez.
C'est l'esprit de contradiction.
À tout à l'heure. À tout à l'heure. 9h dans Empice. Merci d'écouter France Musique. Il est 8h30.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique, Jean-Baptiste Urbain.
Elle est chanteuse, mannequin, animatrice, romancière, mais c'est comme comédienne qu'elle est de retour, Elena Noguera, non pas sur une scène, non, sur deux, dans Tango et Tango, au théâtre Marigny à Paris. Elle est un fantôme, une femme disparue sous la dictature militaire en Argentine. Et puis à la Scala Paris, elle incarne la peintre mexicaine Frida Kahlo, deux rôles où elle chante aussi, car ça fait 25 ans qu'elle enregistre des disques, qu'elle se produit en concert, en solo ou en duo avec André Manoukian, Nathalie Dessay ou Philippe Catherine. C'est dans tout un monde latin qu'elle nous emmène, Elena Noguera, ce matin. Elle est notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
C'est quoi votre métier en fin de compte?
Je sais pas, parfois je dis saltimbanque, mais ça plaît pas aux copines. Je dirais que je suis un griot moderne. Les griots, ils sont témoins d'une époque, peut-être.
Artiste?
Artiste, ouais, j'ai pas de complexe à dire artiste.
Incarner deux personnages dans deux pièces, passer de l'une à l'autre, d'un jour à l'autre, c'est pas compliqué par un risque de confusion?
Non, ça va, ça se fait facilement. C'est un petit peu fatigant par moments, mais c'est joyeux. C'est des femmes d'Amérique latine qui ont des points communs, sans doute. Donc non, ça va, tout va bien.
Cette hyperactivité, elle cache quoi? Une angoisse?
Sans doute un peu d'angoisse. Parfois de la solitude, c'est comme ça aussi qu'on comble quand on est seul ou qu'on se sent seul, parce que c'est ça aussi. Et puis qu'on a du temps devant soi, soit on réfléchit trop, soit on fait des choses. Moi, je préfère faire.
Cette angoisse que vous évoquez assez souvent, hein, est-ce que la musique, elle peut l'apaiser? Quel rôle elle joue dans votre vie?
La musique, j'en écoutais tout le temps, c'est-à-dire du lever au coucher. Je me levais, je mettais des CD, j'écoutais la musique tout le temps. Et en fait, peut-être parce que j'ai vieilli, j'aime bien aussi le silence maintenant. Enfin, qui n'existe pas, mais j'aime bien sans musique. Mais l'affaire est un remède, c'est-à-dire si je prends la guitare et que je fais quelques accords, quand je joue très mal, donc je le fais toute seule. Personne ne me voit vraiment jouer de la guitare. Mais
on vous entend jouer de la guitare sur votre dernier disque.
Oui, j'ai fait un morceau parce qu'ils ont insisté, les copains musiciens qui étaient avec moi pendant l'enregistrement, ils trouvent ça charmant. En fait, ceux qui savent très bien faire trouvent toujours très charmant quelqu'un qui ne sait pas faire. Donc je me suis pliée.
Vous appuyez sur charmant comme s'il y avait un côté péjoratif.
Non, pas du tout. Mais j'ai remarqué ça, que ceux qui savaient très bien faire quelque chose trouvaient joli ceux qui n'y arrivent pas bien. Donc voilà, j'ai cédé à leur demande et j'ai joué cette guitare sur un morceau qui s'appelle « Quelle aubépine », je crois. Et c'est pas terrible, mais c'est mignon, quoi. C'est touchant.
Et Frédéric Chopin, qu'on va écouter, c'est mignon?
C'est très mignon. J'aime beaucoup cette mélodie. Elle m'apaise. J'aime beaucoup le piano classique. J'aime beaucoup la musique classique. Elle me fait sentir adulte. J'ai l'impression d'avoir réussi ma vie quand je l'écoute. Il y a quelque chose de très confortable, sans doute un peu bourgeois, un peu, j'imagine, tout un décor. J'aime beaucoup la musique classique pour ça. Elle m'apaise.
Thank you. On entend en version assez ancienne qui gratte un peu, c'est Arthur Rubinstein, Frédéric Chopin, prélude en mi mineur, opus 28, numéro 4. Premier choix ce matin d'Elena Noguera, notre invitée à la fois dans Tango et Tango au Théâtre Marigny, à Paris, jusqu'au 13 juin. Et puis les dimanches et lundis, il ne faut pas s'y perdre, jusqu'au 23 juin, là. Ce sont des lectures de lettres de Frida Kahlo. On va en parler. D'abord, ce prélude qu'on vient d'écouter, qu'est-ce qu'il suscite en vous à 8h36?
Ah mais j'ai beaucoup aimé l'écouter. Je sais pas, il y a une douce nostalgie, une joyeuse mélancolie, c'est une espèce d'oxymore paradoxal.
Dire des mots sur la musique, l'analyser, c'était le métier de votre père.
Ah oui, ouais, musicologue. Écouter la musique, c'était marrant d'assister à ce baba. Il écoutait à peu près 16 000 titres par an. Il avait
des spécialités.
En fait, lui, il travaillait à ce qui s'appelait la médiathèque de Belgique, qui pour les Français n'a pas tout à fait le même sens, mais c'était un centre culturel qui s'occupait de distribuer la musique dans toute la Belgique à des prix démocratiques pour faire découvrir la culture à tous les milieux sociaux et culturels. Et donc, lui, il s'occupait de tout sauf du classique. Il y avait quelqu'un qui s'occupait du classique. Il faisait la musique ethnique, le rock, la pop, pas la musique française, pas la musique classique, pas la musique pour enfants. Donc, il écoutait tout ça. C'était assez, assez beau. Il y avait des mallettes à l'époque, je vous parle des années 70, qui avaient la taille des 33 tours. Donc, les 33 tours, pour les jeunes qui écoutent, ce sont des disques en vinyle qu'on mettait sur des platines.
Ça revient, hein?
Ça revient. Et donc, ces mallettes avaient cette taille-là. Il devait y en avoir une vingtaine ou cinquantaine. Et donc, il arrivait à la maison avec ça. Il passait sa vie à écouter des disques. Et c'était son métier, et c'était joli. Et il faisait lui, il était tout en haut de la chaîne, et donc il faisait des colloques, il expliquait l'esthétique dans la musique, comment Prince s'inspirait de telle musique pygmée. Mais je dis n'importe quoi là, hein, parce que c'est lui le spécialiste, hein, pas moi. Mais, voilà.
Un père musicologue, une sœur Lio chanteuse, un fils musicien. Vous, la musique, elle vous a happé quand?
Oh, très petite, hein, c'est tout le temps là, il y a tout le temps de la musique. Si c'est pas le père qui écoute pour son travail, c'est la mère qui chante ou du fado, ou de la bossa nova, ou des chansons françaises, Jeanne Moreau. Donc la musique est toujours là. C'est une sorte de comédie musicale, je transpire la comédie musicale. C'est-à-dire qu'elle est toujours présente dans ma tête, je chante tout le temps quelque chose, je mets tout en musique, je chante le quotidien...
Mais être devant un micro, dans un studio d'enregistrement, être sur scène face à un public, il y a eu une bascule, ça a été des rencontres, ça a été des musiciens qui vous ont dit « vas-y ».
Alors, non, je regardais les comédies musicales quand j'étais petite et j'avais envie d'être Shirley MacLaine, qui était donc pareil pour les plus jeunes, une actrice qui chantait, qui dansait, ou même Jeanne Moreau, j'aimais bien parce que ça jouait, ça chantait. Donc j'avais envie de ça. Je voyais pas ma place dans le monde, dans un métier normal. Je voulais faire spectacle. Donc après, de rencontre en rencontre, ça s'est fait. Je saurais plus vous dire. Vous savez, je suis une dame âgée maintenant.
C'est vrai que vous avez donné cet hiver dans un grand hôtel parisien en catimini des concerts de jazz.
Ouais, j'ai fait des reprises de jazz. En fait, vous savez, il y a une petite angoisse quand on est artiste, c'est l'obligation de résultat. Donc, vous êtes dans une salle et puis tous les jours, vous arrivez et vous demandez à la billetterie, il y a combien de places, il y a combien de gens. Et donc, il y a une espèce de honte que pas tout le monde ressent, parce que ceux qui ont du succès ne connaissent pas cet endroit-là, mais moi, j'ai pas un succès fou tout le temps. Donc, j'ai une espèce de honte et de malaise quand je remplis pas ma salle, pour les producteurs, pour les gens qui investissent, même pour les gens dans la salle présents. Je me dis, oh, ils font partie d'une salle à moitié pleine, ils doivent pas se sentir confortables de pas être dans une salle où il y a du succès. C'est une époque qui adore le succès. Et donc, j'étais fatiguée de ça et j'avais envie de savoir si j'avais fait de la musique pour avoir mon nom en haut de l'affiche à l'Olympia, si c'était ça le rêve, de remplir des salles, ou bien si c'était la musique. Et donc, il fallait aller chanter quelque part, anonymement, payer le prix d'une artiste anonyme. et se rendre compte de ce plaisir-là. Et
devant des touristes étrangers qui ne connaissent pas forcément Elena Noguera.
C'est ça. Et donc, Philippe Evenot, qui est le guitariste qui m'accompagne depuis 25 ans, me demandait, mais qu'est-ce qu'on fait là? Je dis, parce que lui, il a débuté comme ça. Donc, il disait, mais pourquoi on retourne à nos débuts? Moi, je n'ai pas débuté là. Je dis, mais pour ça, pour voir si le fait de jouer ensemble nous suffit. Et puis, peu importe si les gens nous écoutent, nous, s'ils sont là, et ça a eu lieu. Je me suis réconciliée avec l'envie de faire de la musique.
Le Mexique, l'Argentine, dans un instant, on en parle, mais d'abord, on part pour le Brésil. Vous nous emmenez au Brésil.
Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. Un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil, c'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois, c'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie, c'est le souffle du vent, au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide, le néant, c'est la pie qui jacasse. Ce qui verse des torrents d'allégresse, ce sont les eaux de mars. C'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tend, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose. Le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire. Une écharde à boulot, c'est la fleur qui monte. C'est un conte à beaucoup, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces. Ce sont les eaux de mars, la promesse de vie. Attaque, une entaille au talon. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine. Un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison. C'est la neige qui fond, ce sont les eaux de mars. La promesse de vie, le mystère profond. Ce sont les eaux de mars, dans ton cœur tout de fond.
Carlos Jobim, Les Eaux de Mars, avec cette guitare, celle de Liat Cohen. Et trois voix, la vôtre, Elena Noguera, celle d'Agnès Jaoui et celle de Nathalie Dessay. C'est un disque qui a tout juste 10 ans, Rio Paris.
Incroyable.
Paru chez Erato, c'est un bon souvenir.
Magnifique, magnifique. C'est les choses de la vie dont on n'a jamais rêvé. C'est-à-dire, je ne me suis jamais mise à rêver de chanter avec Nathalie Dessay, parce que c'était deux mondes différents, c'est une chanteuse lyrique qui chante de l'opéra, enfin, j'ai jamais rêvé à ça, et donc on vous le propose, vous dites, mais c'est pas vrai, la vie est bigger than life, c'est encore plus magnifique. Donc ouais, c'était super, très impressionnant d'être avec elle, et en même temps, elle m'a appris beaucoup.
Il n'y a pas que le disque, il y a eu beaucoup de concerts aussi.
On a tourné 2 ans ensemble, donc comme je vous disais hors antenne, le résultat, au bout de 2 ans, était encore mieux que sur le disque. moins timide. Il y a une petite timidité qui est charmante sur le disque et qu'on a dépassé à force de vivre ensemble pendant 2 ans. Et c'est chouette, vous me dites 10 ans, mais vous voyez, pour moi, c'est un présent très proche.
Le présent, c'est ces deux spectacles. On va d'abord parler, si vous voulez bien, de ces lectures de lettres de Frida Kahlo. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ces lectures?
Alors, c'était tout d'abord une commande pour un festival à Biarritz, festival de lecture. Et puis, j'ai eu une sorte d'illumination un peu mystique et ça semble un peu neuneux à raconter. Mais je suis montée sur scène et je me suis rendu compte que j'allais transmettre la parole d'une femme qui avait existé. Donc, je me suis sentie une responsabilité de cette parole-là. Et puis, cette première phrase qui ouvrait la lecture, qui dit « Je me peins parce que je suis seule », d'un seul coup m'a fait comprendre ce que je vous disais en début d'émission.
Voilà.
C'est-à-dire cette espèce de sentiment de solitude qui fait que, donc elle s'est mise à peindre, et moi, c'est cette boulimie. Donc au fur et à mesure que je disais le texte, je comprenais des ponts entre elle et moi, je m'identifiais, bien que ce ne soit pas du tout pour les mêmes raisons, mais j'ai un rapport au lit aussi très fort. Évidemment, je ne suis pas malade et je n'ai pas mal. Mais finalement, il y a une existence allongée que j'ai aussi, une existence de la création, un rapport. Elle dit j'ai peu peint et je l'ai fait sans la moindre ambition. Je me trouve aussi peu ambitieuse, mais j'aime faire, mais je n'ai pas beaucoup d'ambition, comme on l'entend en tout cas. Donc j'ai trouvé ces points communs-là et j'ai aimé... J'aime aussi cette force qu'elle a de jamais se baigner dans le malheur. C'est-à-dire, elle accueille la douleur, mais très vite, elle a envie de vivre et de provoquer le bonheur et d'en faire quelque chose. Et je pense avoir ce genre de capacité.
Vous dites ces mots ou vous l'incarnez?
Alors, c'est un objet hybride. C'est-à-dire que je l'évoque. C'est un peu comme quand vous lisez, vous voyez, vous allez lire, je vois que vous avez une paire de lunettes à côté de vous, donc vous allez mettre vos lunettes, donc imaginons vous êtes là, et puis vous allez lire, j'ai n'importe quoi, vous êtes Julien Sorel, vous allez lire le rouge et le noir, et puis vous êtes en train de lire, et puis d'un seul coup vous avez une chemise à jabot, vous avez un costume en velours, mais néanmoins, si vous retombez sur vos pattes, vous avez quand même vos lunettes et vous voyez, j'essaye d'être à cet endroit-là où il y a quand même Elena qui lit. Et donc, il y a une évocation de Frida Kahlo. Et puis, je lis ses lettres, ses correspondances. J'essaye de faire un portrait à travers des lettres pendant 1h15. C'est difficile.
Qu'est-ce qui vous touche le plus chez cette peintre mexicaine?
Cette capacité à vouloir vivre des belles choses. Elle est trompée, ben c'est pas grave, elle souffre et puis ben elle prend plein d'amants aussi et des maîtresses et elle essaye et elle les aime et elle leur écrit des lettres enflammées. Voilà, elle provoque le bonheur. Elle est handicapée, elle se fait opérer 14 fois, mais elle se fait belle, elle séduit, elle n'abandonne rien. C'est-à-dire qu'il y a une force vitale et joyeuse qui dépasse la douleur.
Et puis il y a la musique à vos côtés,
oui.
Le guitariste Laurent Guillet.
Oui.
Quel rôle la musique joue-t-elle dans
dans les lectures? Elle accompagne, alors elle est tout le temps là, invisible, il souligne doucement les lettres, il accompagne avec beaucoup de douceur, il est en dessous. Et puis il y a trois ou quatre chansons qu'on chante aussi, de Chabela Varga qui avait été sa maîtresse. Et voilà.
Et puis ça aussi.
Querida.
Oresso Mecuedo, la ça que vous chantez aussi oui. dans ce spectacle. C'est à la Scala Paris jusqu'au 23 juin, les dimanches et lundis, et vous serez aussi à Avignon.
Oui.
Et puis les autres jours, puisque vous travaillez donc 7 jours, vous êtes sur scène 7 jours sur 7. Tango y Tango, c'est un spectacle qui a marché très bien l'an dernier au rond-point. Là, vous traversez, le spectacle traverse l'avenue des Champs-Élysées au Théâtre Marigny. C'est on peut dire une plongée dans une milonga qui raconte l'histoire récente de l'Argentine à travers le Congo. Le Congo, le tango. Oui. Comment vous êtes entré dans ce spectacle où vous reprenez le rôle de cette chanteuse du groupe Cotton Project?
Oui. Comment je suis rentrée? J'avais vu le spectacle, je l'avais beaucoup aimé. J'adore Marcel Di Fonzobo, qui est mon metteur en scène préféré au monde. J'ai déjà joué deux autres pièces avec lui ces 10 dernières années. Et donc, quand il m'a proposé de reprendre le rôle de la chanteuse, j'ai dit, mais bien sûr. J'ai trouvé ce spectacle magnifique. C'est une comédie musicale, pratiquement, avec des danseurs exceptionnels. Donc, il y a trois couples de danseurs qui font des choses, c'est un tango très scientifique, hein, il est très poussé. Il y a trois personnalités, c'est des entités ces couples qui dansent. Il y a trois entités comme ça qui dansent un tango très singulier, très personnel. Les observer, moi je m'en lasse pas, hein, je suis pas tout le temps sur scène et j'ai des petites interstices dans le décor et je les regarde danser. Et je ne sais jamais lequel je préfère, vous voyez, un peu comme quand vous avez une assiette devant vous et que vous vous dites je préfère la mousse au chocolat, puis la bouchée d'après le cheesecake, puis à chaque fois vous remettez le premier, ben c'est pareil, je les regarde, je dis ben c'est eux que je préfère, et puis la seconde d'après je regarde l'autre, je dis mais non c'est eux, etc. etc.
C'est dur de jouer un fantôme?
Mais non, j'adorerais être un fantôme. Moi je reviendrais en fantôme hanter mes proches. Ça vous laisse quoi?
Non, mais c'est un fantôme qui aspire un peu à oublier son passé.
Là, sur Tango et Tango, oui, il y a un fantôme qui traîne dans la milonga et qui a été très amoureux d'une femme et qui ne s'en remet pas. Et donc, je suis cette femme inoubliable, magnifique, qui déambule dans cette milonga. Et c'est très joli, c'est la petite histoire dans la grande. Donc on assiste à l'Argentine des années 76 jusqu'à nos jours avec sa difficulté politique. Et puis cette milonga où les gens débarquent et puis ce couple qui s'est fait et qui a été séparé par les militaires, cette femme qui a disparu. Donc c'est la petite histoire dans la grande. Et puis aussi l'évolution du tango qui commence très simplement et qui aujourd'hui est parfois dansé de manière très... très spectaculaire, très acrobatique.
Tango et tango, ça vous évoque quoi le tango d'ailleurs? Cette musique, cette danse?
Je ne connaissais pas, hein. Je vous avoue que j'ai découvert en voyant la pièce l'année dernière, j'ai eu envie d'apprendre à danser le tango, ce qui est très difficile. Dans la pièce, je danse à peu près 7 secondes et c'est tout ce que je sais faire pour l'instant.
7 secondes difficiles.
Mais c'est jouissif c'est une danse où les hommes vous guident et vous tiennent, et il faut accepter ça. Et moi, j'étais pas prête à ça. Et en fait, c'est assez plaisant
tango,
de se laisser faire.
Et tango au Théâtre Marigny à Paris jusqu'au 13 juin.
Oui.
Musique Matin, le 7-9 de France Musique. Jean-Baptiste Urbain.
8h55, notre invitée ce matin est Elena Noguera, donc à la fois dans Tango y Tango au Théâtre Marigny à Paris, et puis Frida Kahlo à la Scala Paris, et en juillet à Avignon. On va se quitter avec votre diaporama sonore, c'est le nom qu'on donne à ce petit livret de musique, des musiques que vous avez choisies, et puis d'autres qu'on a choisies pour vous, voici la première.
Sympa.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix qui cite au mangelin.
Le tourbillon de la vie de Serge Rezvani, qui était mon idole, je lui avais écrit des lettres, et puis la vie a fait pareil, je ne l'ai pas rêvé, que je l'ai rencontré. J'ai chanté pour lui et puis il m'a demandé d'enregistrer les reprises, de refaire un disque avec lui, ce que j'ai fait. Et c'est mon ami depuis, il a 96 ans, il est magnifique.
Et c'est vous qui chantez là, hein?
Et là c'est moi qui chante, ouais.
Deuxième musique.
Suzanne is waiting at your doorway. But all she does is waste your chosen.
Hope Sandoval, déjà ce nom en Hope, s'appelait Hope. Il faudrait que je crée un personnage comme ça, donc Espoir Sandoval. Donc c'est une chanteuse qui a joué dans un groupe qui s'appelait Maisie Star et qui fait des disques comme ça avec une voix très planante, pleine de réverb. Et j'adore ce disque, c'est un de mes préférés. C'est cet album-là de Hope Sandoval où il y a Suzanne.
Allez, on tourne une page et voici ceci.
Ta divine comédie, je t'aime.
C'est encore vous ?
Si, c'est moi, mais voilà, donc mon grand jeu de guitare. voilà, c'est ça que je joue à la guitare. Ça s'appelle Kelloben, Kellobépine. C'est une chanson que j'ai enregistrée sur le dernier album. Ouais,
et le prochain ?
Sorti en 22. Oh, je crois que je fais mes adieux à l'industrie musicale.
Ah bon ?
Je dis ça aujourd'hui, après il y a les retours et les machins, mais franchement, l'industrie musicale, bon, on n'en parle pas.
Allez, en ce 31 mai, on va se quitter avec ça.
Quand l'été a disparu, quand le temps s'en est allé, du côté.
Bah, les Demoiselles de Rochefort, génial! Disque préféré au monde avec Mary Poppins. Bah, c'est de la joie, c'est de la. C'est le rêve, la joie, Jacques Demy, magnifique. C'est une philosophie que j'adore, Jacques Demy, c'est maquiller les choses tragiques en légèreté. C'est comme du Frida Kahlo. C'est-à-dire, si vous regardez les films de Jacques Demy, c'est toujours des femmes abandonnées, seules avec leurs enfants, puis elles finissent par chanter et trouver de la joie quand même. J'aime ça.
C'est justement notre voix mystère il y a une heure, c'était...
Quelqu'un qui n'aime pas mes films, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas mes films, parce qu'il n'aime pas mes films, mais c'est quelqu'un que je ne fréquenterai pas, ou quand je le vois, on n'a vraiment aucun point commun, aucune idée commune, et on n'a absolument pas de raison de se voir.
Et c'était justement Jacques Demy, c'est très dur, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit Piala, Godard, non, c'était Jacques Demy qu'il fallait trouver. Un grand merci Elena Noguera
merci
d'être venue ce matin sur France Musique. On vous retrouve merci. Au Théâtre Marigny dans Tango et Tango, à la Scala Paris pour Frida Kahlo, et puis aussi à Avignon, et puis un prochain disque un jour.
Ben oui, peut-être, mais oui, on ne dit jamais.
Un grand merci à Alex Otinois, Benjamin Orgeret, Flora Sternadel, Julia Macarès, Juliette Porchet, Lucas Réal, Antoine Courtin, Nicolas Bichet et Yacine Bouzard. Bonjour Émilie, bonjour Rodolphe.
Bonjour Jean-Baptiste. Le vendredi, nous on fait souvent des expériences avec Émilie. Donc là, on va écouter de l'orgue, du piano à quatre mains, des baroqueux qui n'en sont pas. Enfin, vous allez voir, une émission un peu spéciale. Voilà.
Ah, je vous dis pas à lundi.
Bonne vacances Jean-Baptiste.
Profitez bien.
Merci.
France Musique, Jazz Club, Nathalie Piolet, le samedi à 19h.
Ce samedi, dans Jazz Club, on célébrera la transe et la fête avec Symétrique. Ce quartet du saxophoniste Baptiste Herbin et du trompettiste Nicolas Gardel, entre groove électro et jazz moderne. Un concert enregistré tard dans la nuit au Magic Mirrors de Coutances à Jazz Sous les Pommiers. On n'est pas prêt d'aller se coucher.
Jazz Club,